Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. L'autrice Maya Mazoret était à Rennes la semaine dernière pour la sortie de son livre Maison Close, paru aux éditions Anne Carrière, pour une rencontre avec le public organisée par la librairie Low Fire. C'était l'occasion pour moi de l'interviewer autour d'un verre, juste devant le théâtre de la Parcheminerie.
Quand você se aproxima, o meu corpo sente.
On trinque ? On trinque.
Bonjour Maya Mazoret.
Bonjour.
C'est bien d'être là comme ça à boire un petit blond avec toi et pour parler de ta maison close.
Pour parler de ma maison close et dans mon cas pour découvrir Rennes aussi puisque c'est la première fois que je mets les pieds ici. Donc là on est en terrasse avec le petit verre de blanc. Il ne pleut pas, preuve qu'on dit du mal de la Bretagne. Et ensuite, bah oui, la maison close, tout à l'heure, là, on va en parler au théâtre.
Qu'est-ce que tu connais de Rennes ?
Vraiment rien du tout.
Mais c'est-à-dire, tu as déjà entendu parler, par exemple, des transmusicales ou bien, je sais pas moi, d'autres choses ?
Maintenant que tu me le dis, oui. Mais je me rattraperai, on dit ça comme ça. Non, mais d'habitude, quand je vais en Bretagne, je vais un peu plus loin, je vais à Vannes. Donc, désolée pour les Rennais.
Pour voir la mer ?
Exactement, pour voir la mer, pour manger des huîtres.
C'est un très bel endroit pour avoir une maison close. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ça fait partie des fantasmes les plus récurrents chez les Français. C'est vraiment de faire l'amour à la plage, peut-être avec une infirmière ou bien, je ne sais pas, une hôtesse de l'air, c'est bien ça ?
C'est bien ça. Ça, c'est quand les chercheurs posent des questions aux Français. Et c'est intéressant comme question parce qu'il faut se poser la question de la méthodologie, c'est-à-dire est-ce que les gens peuvent répondre avec toute leur liberté ou alors est-ce qu'on leur soumet une liste préétablie de fantasmes ? Et en vrai, c'est souvent des listes préétablies parce que ça coûte moins cher à traiter, tout simplement. Donc au lieu de laisser les Français dire ce qu'ils ont dans la tête, et généralement ils ont des choses complètement folles dans la tête, les sondeurs arrivent avec leur idée de ce qui est un fantasme et c'est comme ça qu'on reste sur des choses finalement assez stéréotypées, assez codifiées.
Ah, donc finalement, il faut s'en méfier un peu. C'est peut-être pas tout à fait la réalité.
Je pense que c'est pas pareil de dire « Est-ce que tu veux une choucroute ou un cassoulet ?» ou « Qu'est-ce que tu veux manger ?»
Effectivement, c'est pas pareil, surtout si on n'a que deux choix. Une maison d'édition Anne Carrière, c'est une première à travailler avec eux ?
C'est une deuxième. J'ai déjà fait Sortir du trou, lever la tête il y a 5 ans. Donc là, je suis de retour chez la même maison d'édition, qui est aussi la maison d'édition qui m'a permis de faire un livre qui correspond exactement à ce que je voulais, c'est-à-dire un essai graphique. Et c'est assez compliqué finalement de proposer des formats qui sortent de la norme à des éditeurs. Donc j'étais contente qu'on me laisse faire tout ce que je veux.
Pour se plonger aussi sur tes activités artistiques, le livre a été totalement dessiné par toi.
Il est dessiné par moi, il est aussi manuscrit par moi. Donc c'est sûr que quand on va voir les éditeurs et qu'on leur dit « je vais faire un livre, mais ce sera comme avant l'invention de l'imprimerie et on va faire un espèce de codex du 15e siècle avec des dessins et de l'écriture manuscrite et des encres », c'est sûr que ça surprend un petit peu. Mais moi j'aime bien le côté passage secret finalement, quand on entre dans un livre et qu'il n'y a pas une forme habituelle et peut-être on est un petit peu perdu. Il y a des livres que moi j'ai trouvé hyper inspirants dans ma vie. Alors déjà tous les trucs du Moyen-Âge avec des enluminures, je trouve ça d'une beauté incroyable. Et le Codex Serafinianus de Luigi Serafini, qui est un bouquin italien qui est sorti en 1972. Et c'est un artiste italien qui a fait une espèce d'encyclopédie d'un univers qui n'existe pas en inventant un langage qui n'a jamais pu être décrypté jusqu'à aujourd'hui. Il est encore en vie, il fait des choses incroyables. Et on me l'a offert il y a assez longtemps et je m'étais dit oh, un livre magique contemporain. C'est-à-dire pas le vieux grimoire, pas le Seigneur des Anneaux. Là, j'ai entre les mains quelque chose de très mystérieux qui me permet de projeter mon propre imaginaire et ça, je trouve ça super. Donc j'avais envie de faire ça un jour et avec la maison close, j'y suis un peu. Sauf qu'évidemment, c'est quand même beaucoup plus compréhensible. J'écris en français, par exemple. Parler de ce qu'est la maison close, qui est un système de récupération des fantasmes parce que j'estime que on nous les vole un petit peu aujourd'hui, avec les sondeurs dont on a parlé tout à l'heure qui nous soumettent des listes préétablies, avec le porno, avec la dark romance qui viennent tout de suite nous infliger des fantasmes qui sont pas forcément les nôtres. Et c'est difficile de s'entendre quand il y a autant de fantasmes autour de nous. Donc pour que les gens retrouvent des fantasmes qui vraiment leur correspondent, je leur demande d'imaginer une situation complètement théorique qui est celle du service sexuel. Je leur demande ce qu'ils demanderaient à quelqu'un qui paierait pour du sexe. Et s'ils peuvent répondre à cette question, je leur demande à quoi dans ce cas-là ressemblerait leur maison close où il y a autant de protagonistes qu'on veut, on peut choisir la musique, la déco, le nombre de pièces, le nombre de pratiques, les accessoires, tout ce qu'on veut. Et j'ai fait ce travail sur moi-même. Donc dans la maison close, j'explique comment est-ce qu'on fait sa maison close. Et je donne aussi la mienne. Déjà parce que ça n'a pas été fait qu'une femme ou même qu'un homme raconte tous ses fantasmes sans passer par le prisme de la fiction et de manière exhaustive. Donc c'est chouette de faire un truc pour la première fois. Et aussi parce que ça permet de fournir aux lecteurs, aux lectrices une autre base fantasmatique que celle que je dénonçais tout à l'heure. Plutôt que de se dire ok, je sais pas quels sont mes fantasmes, oh mon dieu, est-ce que je désire mon collègue, est-ce que ça va être un mot-clé sur une plateforme porno. Je propose de partir de choses beaucoup plus douces qui correspondent à mon imaginaire et de faire une espèce de partie de ping-pong d'imaginaire avec les lecteurs et lectrices en disant voilà, moi je désire ça, mais vous, vous désirez quoi? Est-ce que ça vous le feriez? Est-ce que ça c'est dans votre maison close? Est-ce que vous feriez les choses différemment? Et à la fin du livre, il y a aussi toute une série de questions qui permettent aux gens de construire leur propre maison close. Et si ils font un peu d'effort, parce que ça demande un petit peu de temps quand même, de pouvoir repartir de la lecture du livre avec un imaginaire érotique, qui me semble absolument crucial, parce qu'un imaginaire érotique, ça protège. Enfin, ça encourage, ça enthousiasme. Ça permet de communiquer plus facilement avec ses partenaires, mais ça permet aussi de ne pas se faire rouler dessus par le désir des autres. Parce qu'en vrai, quand deux personnes ont du désir, celle qui en a plus que l'autre ou qui sait mieux ce qu'elle veut, ce sera beaucoup plus facile d'imposer ses choix. Et quand on n'a pas d'imaginaire érotique, en fait, on se met un peu en danger. Donc je propose la maison close aussi comme espace de protection. Ça ne veut pas dire qu'on fera que ce qu'il y a dans la maison close, mais au moins on saura se défendre.
Quand on rentre dans votre maison close, on commence déjà, d'une certaine manière, à explorer. Qu'est-ce que ça nous fait, page après page, ce que vous êtes en train de nous proposer? Et ça a un côté un peu abstrait quand même, la rentrée en matière. Elle n'est pas, vous ne nous prenez pas totalement par la main. Vous êtes en train de nous suggérer des choses, comme si vous étiez en train de stimuler une partie de notre cerveau que nous n'avons pas forcément avec le quotidien, l'habitude de faire appel pour des raisons, je ne sais pas moi.
Réhabiliter le rêve me semble important. Ensuite, je te trouve un petit peu injuste parce qu'en fait, le début du livre... Alors ensuite, je sais que comme c'est un livre illustré, les gens commencent pas forcément au début et qu'ensuite, par contre, l'ordre dans lequel on discute est un peu chaotique, mais c'est pas mal de lire le début, oui, au moins avant.
Non, mais je l'ai lu le manifeste, j'ai bien compris. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait de réhabiliter le mot fantasme, oui, comme lui donner sa place, parce que c'est devenu un mot valise dans notre société.
Ouais. Souvent, on part du principe que le fantasme et le rêve en général, ça n'a pas d'incidence sur le réel. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On ne fait pas d'une maison close juste pour le plaisir de faire une maison close. Enfin, ensuite, c'est super chouette, très agréable. Moi, j'ai passé vraiment un super temps à créer la mienne. Mais une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut, et souvent en sexualité, on se pose la question de ce qu'on peut et pas de ce qu'on veut, alors on peut commencer à modifier très pratiquement l'environnement dans lequel on a des rapports sexuels, les personnes avec qui on a des rapports sexuels, la manière dont on a des rapports sexuels. Et c'est dommage de disqualifier le rêve et disqualifier le fantasme. Donc ouais, j'invite les gens à rentrer dans une forme de rêverie avec moi. Mais c'est pas une rêverie complètement théorique et déconnectée du réel. Au contraire, c'est une rêverie opérante.
En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que on commence, par exemple, mais j'essaye. J'essaye quand même d'avoir les mots justes, justement, pour qu'on puisse se rencontrer là-dessus. C'est-à-dire que je sentais, par exemple, dans les matières, des sensations qu'on peut éprouver en faisant des gestes. Et du coup, même si vous faites votre proposition de maison close, je pense que très rapidement, on peut se dire « Oui, c'est vrai que peut-être je ne pensais pas à cette matière et elle me fait quelque chose d'intime. » C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Est-ce que...
C'est cette idée de ping-pong, finalement, avec les lecteurs et lectrices. Je vais tellement loin dans la précision du désir que ça oblige les gens à se poser la question de leur propre désir. Quand je fais, par exemple, un nuancier pour définir la palette de couleurs que moi j'associe au désir, ben, peut-être qu'il y a des gens qui disent noir, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est un arc-en-ciel, au contraire, mais souvent on ne se pose pas des questions comme ça. Et j'aime bien l'idée d'aller chercher les gens sur sur des trucs qu'ils n'ont pas du tout appréhendé dans leur vie, on leur a jamais posé la question. Peut-être que des fois, il n'y a pas de curiosité autour de ça parce qu'il y a tellement de tabous. Peut-être qu'aussi, ne pas se poser de questions sur la sexualité, c'est une manière d'éviter la sexualité. C'est très confortable, finalement, de ne pas se poser de questions là-dessus et de dire « Moi, ma sexualité, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est un peu d'héritage culturel, c'est un peu ce que j'ai regardé hier sur Pornhub. » Et c'est facile, c'est confortable, mais ça, c'est une très bonne manière d'éviter sa propre sexualité. Et effectivement, je tends un miroir aux lecteurs et lectrices en espérant que toutes les questions auxquelles moi j'ai répondu, il et elle y répondent et réussissent à incorporer les réponses dans leur vie.
A tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça. A tua presença pelos olhos, boca, narinas e orelhas. A tua presença paralisa meu momento em que tudo começa. A tua presença desintegra e atualiza minha presença. A tua presença envolve meu tronco, meus braços e minhas pernas. A tua presença é branca, verde, vermelha, azul e amarela. A tua presença é negra, 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 negra. A tua presença transborda pelas portas e pelas janelas. A tua presença silencia os automóveis e as motocicletas. A tua presença se espalha no campo, derrubando as cercas. A tua presença é tudo que se come, tudo que se reza. A tua presença coagula o jorro da noite sangrenta. A tua presença é a coisa mais bonita em toda a natureza. A tua presença mantém sempre teso o arco da promessa. A tua presença, morena, 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 morena.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, aujourd'hui avec Maya Mazorette pour la sortie de son livre Maison Close.
Quelle est la différence pour toi entre la maison close et le jardin secret ?
Je pense que le jardin secret, c'est une fois encore quelque chose de très abstrait et qui induit le fait qu'on n'en parlera à personne. Moi, par exemple, ma maison close, elle est publique, donc c'est pas du tout un jardin secret. La maison close, elle fonctionne plus comme un palais mental, c'est-à-dire un endroit où tu vas ranger tes idées, parce que comme ça, elles sont à disposition et on sait bien que notre cerveau, il est assez visuel et que, par exemple, quand on veut mémoriser, 100 000 décimales du chiffre pi, et bien souvent les gens utilisent un palais mental. Donc moi je trouve ça assez pratique parce que maintenant que j'ai fait ma maison close et qu'il y a une architecture de la maison close, ben, je peux ranger mes fantasmes. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas en enlever ou que je ne peux pas en rajouter. La maison close, elle continue de se construire. Mais je ne suis jamais complètement paumée par rapport au désir. Et une fois encore, c'est très protecteur et ça rend les choses plus faciles avec les gens quand même. Parce que souvent il y a ce truc-là de ouais, les femmes elles savent pas ce qu'elles veulent. Que veulent les femmes, et ça c'est des manières hyper abstraites de poser des questions. Je trouve ça très difficile. Moi, si on me dit qu'est-ce que tu veux, mais dans ce cas-là, il y a tellement de choses que je voudrais que j'arrive pas forcément à répondre à cette question. Alors que si on me dit pourquoi tu payes ou imagine une maison close, là ok, très bien, il y a des murs, il y a de l'argent, ok, je paye, je sais pas, 200 €, c'est cher, ok, dans ce cas-là vraiment j'en veux pour mon argent. Dans ce cas-là, je demande quoi à la personne? Et en fait, moi, j'essaie juste de rendre les choses un petit peu concrètes par rapport à ces grandes questions existentielles, de les réancrer dans le réel. Et mine de rien, un portefeuille et une baraque, ça, on sait ce que c'est.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que rapidement, on arrive dans un bar, dans votre maison close, et là, on est en train de boire un petit coup. Je me demande vraiment, c'est cette espèce d'ivresse aussi qui invite à un lâcher prise, mais il n'est pas forcément obligé, mais en tout cas, vous le pointez quand même. Moi, je l'aime bien, cette idée aussi.
Alors, c'est vrai que la question des états de conscience modifiés fait partie des questions que je pose aux personnes qui veulent construire leur maison close, parce que ça peut être le petit verre de blanc qu'on est en train de partager en ce moment, Ça peut être des drogues, une fois encore. On est dans un univers imaginaire, donc on n'a pas besoin de respecter la loi française. Mais ça peut aussi être l'épuisement, comme quand on a trop dansé. Ça peut aussi être quand
le
on
yoga.
Se réveille. Exactement, ça peut être le yoga, la méditation. Je pratique pas
la
tout
sophrologie.
Ça. Donc, la sophrologie, incroyable. Ta maison close est très différente de la mienne.
Je suis sophrologue.
Mais savoir si dans la sexualité on veut être complètement soi-même, c'est une bonne question à se poser. La plupart des gens font quand même l'amour après un petit verre, donc j'imagine que je ne suis pas complètement la seule dans cette situation.
Pourquoi le français n'est pas un sujet pour toi dans tes fantasmes ?
Ah, alors effectivement, parmi les multiples questions que je pose dans la maison close, il y a de savoir dans, quelle langue on utilise dans la maison close. Alors chacun répond comme il veut. Là, pour l'instant, je pose la question à beaucoup de gens et ils me répondent toujours le français. Moi, personnellement, le français, c'est une langue qui est la mienne, qui est ma langue maternelle et qui est chargée de plein d'affects. De toutes les premières fois que j'ai entendu tel ou tel mot, de la fois où je l'ai entendu de la part d'un partenaire qui n'a peut-être pas été très sympa avec moi, ou de moments qui ont été embarrassants. Et en fait, le fait de passer par une langue étrangère, je trouve que ça me décomplexe beaucoup. Par ailleurs, il se trouve que dans ma vie de tous les jours, ça fait bientôt 20 ans que j'ai été qu'avec des partenaires qui étaient étrangers avec qui j'ai fait que parler anglais. Donc pour moi, la langue du sexe, c'est l'anglais, ce qui me permet de me débarrasser de toute cette espèce de fatras culturel que je trimballe avec moi dans l'héritage du français. Et je trouve que c'est une bonne question à se poser. Comment on vous parle ?
Quand on ne connaît pas vraiment une langue, l'exercice d'essayer de connaître une langue différemment, en utilisant vraiment la langue, vraiment très réussi comme projet.
Il y a un petit côté d'amoindrissement. En fait, quand on utilise une langue qui n'est pas la nôtre, c'est comme si on était un peu dans du coton. C'est pas la même chose de dire baiser et dire to fuck, du tout. Et même culturellement, la traduction n'est pas si évidente que ça. Donc l'anglais, pour moi, c'est une zone de confort. Et puis j'aime bien le confort, comme tu as pu le voir dans ma maison close.
Absolument.
C'est vraiment très très important pour moi.
Il y a un personnage qui fait partie là, de l'ensemble, c'est le voyant.
Oui.
Celui-là, peut-être c'est un peu récurrent, non, dans les fantasmes des femmes.
Je pense que si on leur posait la question sous cette forme, ce serait aussi récurrent pour les fantasmes des mecs. Dans ma maison close, il y a plein de personnages différents que j'appelle des archétypes parce que souvent ils correspondent à des grandes figures. Le voyant, c'est un de ces archétypes et en fait c'est quelqu'un qui a le pouvoir de lire dans tes pensées parce que j'adore la sexualité contemporaine où on se pose plein de questions et puis je trouve que les jeunes ils ont vraiment eu le mémo MeToo, donc il y a vraiment une espèce de questionnaire qui peut même se prolonger pendant les rapports sexuels de t'aimes ça plus fort, moins fort, et c'est génial. Mais j'aimerais aussi qu'il existe des moments où les mecs juste liraient dans mes pensées et ce côté télépathe, c'est pas quelque chose que je peux complètement retranscrire dans le réel, mais ouais, bien sûr que c'est un fantasme d'avoir quelqu'un qui sait mieux que moi ce que je veux.
Ouais, c'est vrai, il y a quelques prétentions comme ça quand on drague quelqu'un, je pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de tentative. Tiens, les polentas frites sont arrivées. C'est très phallique. Ça va bien nous aider, tout ça, pour notre fin d'interview. C'est
alors,
pas mal.
J'ai une petite passion pour les frites sous toutes leurs formes. Faut savoir ça. Je sais pas pourquoi. Enfin, le côté gras, junk food, c'est mon truc complètement. Il y a des questions d'huile, d'ailleurs,
oui,
dans ma maison
fait,
close. Alors qu'il n'y a pas de resto dans ma maison close.
Mais il y a des moments où tu n'es vraiment pas gentil. Et ça, c'est trop chouette. C'est-à-dire que, par exemple, les hommes que tu vas choisir pour être là, tes archétypes ou les personnages qui sont dans ta maison close, ils ont quand même une date de péremption.
Ah, tout à fait. C'est marrant parce que c'est vraiment l'unique page que tout le monde me ressort, effectivement. Alors, moi,
c'est important.
C'est hyper important. J'ai toujours aimé les mecs plus jeunes que moi. Je suis mariée avec un mec plus jeune que moi. Avant ça, j'étais avec un mec encore plus jeune que moi. Parce que je m'intéresse à une certaine version du corps masculin qui est liée à la densité. J'aime les muscles et j'aime le gras aussi. J'aime les deux ensemble. Donc c'est généralement à ça que correspondent pas mal de mes archétypes. Même si c'est pas forcément ce que je mets dans mon lit dans ma vie de tous les jours. Et donc je suis pas gentille parce que je me permets d'affirmer ça. On a la chance, quand on est des femmes, d'être désirables à tout âge, quoi qu'on dise la pop culture, où on entend qu'il y a 15 ans, on est périmé, puis 20 ans, puis 25, puis 30, puis 35, puis 40, puis 45. J'ai 47 ans, donc j'ai quand même vu que ça fait 10 fois qu'on me fait le coup et que ça fait 10 fois que je suis toujours aussi désirable. Donc je peux me permettre de faire l'amour avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et je compte continuer. C'est ma préférence, c'est comme ça. Je remarque que certaines personnes veulent politiser ces sujets-là et me dire que, bah, effectivement, mon désir, il n'est pas très gentil. Mais savoir si on doit être une personne gentille dans le désir, en fait, la question, c'est de savoir envers qui on est gentil. Si je suis gentille envers les mecs qui me plaisent pas, pour leur offrir de la sexualité de pitié, déjà, je suis pas sûre que je suis tellement gentille avec eux. Et je suis surtout très, très méchante avec moi-même. Et autoriser aux femmes, notamment, à faire preuve d'égoïsme dans la sexualité, c'est un programme politique qui me semble beaucoup plus intéressant que de leur dire qu'il faudrait coucher avec, je sais pas, l'équivalent Benetton d'amants qui seraient de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les validités, de toutes les orientations. Et à un moment, ça n'a aucun sens. Le désir, c'est une élection de quelqu'un parmi d'autres. Donc effectivement, il y a des critères. Ces critères sont injustes. Le désir n'est pas démocratique. C'est terrible de dire ça. Moi, je suis une grande démocrate. Mais dans le désir, il y a un truc qui fait qu'on n'est pas tous égaux. Et tant mieux, parce qu'ensuite, par contre, il y a des kinks qui font que... quand on dit qu'on trouvera toujours chaussures à son pied, bah en fait, la majeure partie des gens trouvent chaussures à leurs pieds. Et si les hommes ne correspondent pas à mes standards et que ça les frustre, et bah très bien, ils peuvent grimper à la hauteur de mes standards. Et ça, c'est important aussi. Les hommes devraient se rendre plus désirables pour les femmes. Et peut-être que ça les effraie parce que c'est le monde de l'hygiène, de la beauté, qu'ils associent ça à des valeurs féminines. Et dans ce cas-là, je peux les aider en disant... Vous savez quoi ? C'est pas des crèmes de jour, c'est pas du fond de teint. C'est des outils de production de la beauté et des outils de production du désir. Dans ce cas-là, c'est plus sérieux, c'est plus masculin. C'est exactement la même chose, hein, qu'on soit clair sur la question. Et emparez-vous de tout ça. Mettez des vêtements à votre taille. Faites-vous des coupes de cheveux. Rendez-vous désirable. Si vous voulez du désir, rendez-vous désirable. Il n'y a vraiment, vraiment pas de secret par rapport au désir féminin. C'est que ce désir se mérite comme tous les désirs se méritent. Et c'est pas si compliqué que ça.
Ça reste quand même des fantasmes et on fait ce qu'on veut.
Et on fait ce qu'on veut et je suis contente que tu le dises, mais apparemment c'est pas si évident que ça dans la mesure où moi on a pu me reprocher mes fantasmes. Notamment à un moment sur Instagram, avant que je fasse la maison close, j'avais décidé de me lancer à moi-même un défi qui était de dessiner mes rêves érotiques et de les publier. Donc finalement une pré-version de la maison close. J'ai dû arrêter assez rapidement le projet. Parce que en fait, les gens n'étaient pas d'accord avec mes rêves érotiques. On ne parle même pas des fantasmes. On parle de mon inconscient qui fait des associations d'idées pendant que je dors. Et c'était tellement, tellement insupportable qu'il a fallu que j'arrête parce que je recevais des menaces. Donc c'est dire si le fantasme qui est censé être quelque chose qui nous concerne personnellement, en fait, c'est pas vrai. Et redire qu'on est libre de nos fantasmes et libre de nos rêves érotiques, évidemment... c'est une reprise de pouvoir. Donc effectivement, des fois c'est pas très raisonnable, mais sauf à considérer que le crime par la pensée existe, alors il faut accepter cette partie déraisonnable en nous qui est aussi une partie de jouissance.
Alors jouissons.
Jouissons, mangeons des frites.
Mangeons des polenta
avant
frites.
Qu'elles refroidissent.
Okay.
Et rotine. Merci.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Índia, teus cabelos nos ombros caídos.
Découvrez cette émission aussi en podcast sur le site de canalb.fr. Merci de continuer de nous suivre sur le 94 MHz et à très bientôt. Allez, bisous, bye.
E a doce meiguice desse teu olhar, Índia, da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor, vem que eu quero te dar todo meu grande amor, quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante,
deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a tua imagem sempre comigo vai. Dentro do meu coração, todo meu Paraguai quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu.